RFI, 6h, à Paris, 5h en temps universel.
RFI Matin.
Bonjour à toutes et à tous, c'est RFI Matin qui commence avec le journal. Bonjour Jeanne Bartoli. Et
bonjour Julien, bonjour à tous.
Et des hommages risqués à la une.
Et des rassemblements prévus en Russie aujourd'hui pour rendre hommage à Alexei Navalny, l'opposant numéro 1 du Kremlin, mort en détention il y a tout juste un an. Son épouse, elle, perpétue son combat. Elle organise une cérémonie à Berlin aujourd'hui. Dans ce journal aussi, le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, est arrivé en Israël. Il doit rencontrer Benjamin Netanyahou aujourd'hui pour évoquer notamment le plan de Donald Trump pour Gaza, et ce au lendemain d'un nouvel échange de 3 otages israéliens contre 369 prisonniers palestiniens, la plupart retenus sans charge ni jugement. Dans ce journal aussi, le sommet de l'Union africaine, le djiboutien Mahamoud Ali Youssouf a été élu hier à la tête de la commission de l'UA. Le sommet a été dominé par le conflit dans l'est de la RDC. Et puis du football, dans ce journal en Espagne, miné par l'exclusion de Jude Bellingham, le Real concède le nul un partout face à Osasuna.
Braveront-ils les autorités pour rendre hommage à Alexei Navalny?
Un an après sa mort dans une colonie pénitentiaire de l'Arctique, les partisans du principal opposant au Kremlin doivent organiser aujourd'hui des commémorations, peut-être se rendre sur sa tombe à Moscou malgré le risque de représailles des autorités. L'opposition russe, dont une grande partie vit aujourd'hui en exil. Son épouse Yulia organise aujourd'hui une cérémonie, une discussion à Berlin. Le journaliste et écrivain Philippe Dziatko a bien connu Alexei Navalny, il estime que sa mort n'a fait que renforcer son message.
Je pense qu'ils avaient peur d'Alexei Navalny vivant et ils en ont peur maintenant qu'il est mort. Les autorités en ont tellement peur qu'elles ont même envoyé en prison ses avocats. Des journalistes sont aussi en prison parce qu'ils ont parlé de lui. Je pense que les mots d'Alexei Navalny, si je suis tué, cela signifie que nous sommes plus forts que jamais, ça ne sont pas que des belles paroles, c'est aussi un fait dans le sens où son meurtre est le résultat de la peur. Mais je considère qu'Alexei Navalny ne combattait pas Poutine. Pendant une bonne partie de sa vie, il a effectivement combattu le régime de Poutine. Mais les derniers mois avant sa mort, j'ai le sentiment qu'il n'était plus question de Poutine, mais plutôt d'histoire. Il dialoguait avec l'histoire, la grande histoire. C'est pourquoi lorsque nous parlons de lui, on ressent de l'espoir, parce que notre pays traverse des années terribles. Mais si nous connaissons l'histoire, nous savons que tout change et nous croyons en l'avenir. Et en ce sens, Navalny restera l'homme de l'avenir, l'homme de l'histoire.
И мы верим в будущее. И в этом смысле Навальный человек будущего, человек истории.
Philippe Dziatko, joint par Anastasia Becchio, rappelons qu'en Russie, évoquer en public Alexei Navalny ou son organisation, le Fonds de lutte contre la corruption, sans préciser qu'ils ont été déclarés extrémistes, expose les contrevenants à de lourdes sanctions.
Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, est arrivé hier soir en Israël.
Et une première tournée au Moyen-Orient pour Marco Rubio, où il doit discuter du plan de Donald Trump d'occupation de la bande de Gaza, plan qui prévoit également l'expulsion des Gazaouis vers l'Égypte et la Jordanie. Marco Rubio qui rencontre tout à l'heure Benjamin Netanyahou au lendemain de la libération de 3 otages israéliens retenus à Gaza contre 369 prisonniers palestiniens dont la grande majorité était détenue sans cadre légal. Notre envoyé spécial Abla Jounaidi a suivi ces libérations aux côtés des proches des otages israéliens à Tel Aviv. Son reportage.
Explosion de joie, comme à chaque libération. En cette fin de semaine où l'accord de cessez-le-feu a encore failli tomber à l'eau, le public de la place des otages relâche la pression pour un moment. Yoavi Shumuel.
Chaque jour est stressant. Qui sait ce qui va se passer à la prochaine étape? C'est une période qui fait peur.
Comme un seul corps qui respire au rythme des libérations, la population ici fait de la solidarité envers les otages et leurs familles un devoir. Marcia est binationale comme les otages libérés ce samedi.
15 mois, presque 500 jours. Nous pensons que c'est la moindre des choses que nous pouvons faire pour nos frères. Je suis brésilienne et israélienne et je crois qu'il ne s'agit pas d'un problème israélien mais mondial. Honte. Honte aux gouvernements qui ne sont pas solidaires envers nous.
Les yeux rivés sur l'écran montrant les otages debout sur une scène montée dans le sud de Gaza pour l'occasion, le public proteste contre la mise en scène du Hamas. Des images vite remplacées par celles des retrouvailles des otages avec leurs familles. Abla Jounaidi, Tel Aviv, RFI.
Ces libérations qui ont donc été négociées dans la première phase de l'accord de trêve. Les négociations pour la deuxième phase, elles n'ont pas encore débuté. Elles ont pris du retard. Une deuxième phase qui prévoit la libération de tous les otages et la fin de la guerre.
La guerre qui se poursuit dans l'est de la République démocratique du Congo.
La situation humanitaire est très précaire. C'est alarmée la première ministre congolaise, Judith Suminwa. Auprès de l'agence France Presse, les combats dans l'est de la RDC qui ont fait au moins 3000 morts selon l'ONU. L'incertitude, elle, demeure sur la situation sécuritaire à Bukavu, capitale provinciale du sud de Kivu. La présence du groupe armé du M23, soutenu par le Rwanda, a été signalée dans la ville et à proximité, mais il n'en revendique pas le contrôle. Pour Thierry Vircoulon, chercheur associé à l'Institut français des relations internationales, c'est sans doute parce que Bukavu n'est pas un objectif en soi, plutôt perçu comme une étape par le groupe armé. Écoutez.
Peut-être qu'il ne compte pas s'arrêter à Bukavu. Et ils comptent continuer leur progression ailleurs. Soit ils s'arrêtent là, parce qu'ils n'ont pas assez d'effectifs pour continuer, pour aller plus loin, parce que évidemment entre leur point de départ au nord Kivu et puis là où ils sont maintenant, ça fait quand même beaucoup de territoire. Soit ils descendent sur Uvira. Donc ils continuent pour apprendre la partie utile de la province du sud Kivu, je veux dire. S'ils descendent vers Uvira, ils arrivent à la frontière du Burundi. Et donc, il y a des troupes burundaises. Et donc, ça serait extrêmement menaçant pour le gouvernement burundais.
Avec quel risque potentiel à ce moment-là?
Ah ben là, des vrais affrontements avec les troupes burundaises, parce que apparemment, elles n'ont pas vraiment combattu au niveau de Kavumu et de Bukavu. Donc là, par contre, je pense qu'il y aurait des vrais combats.
Et le chercheur Thierry Vircoulon, interrogé par Amélie Tullet, et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a justement mis en garde hier. Il faut éviter à tout prix une escalade régionale dans le conflit. Il s'exprimait à l'ouverture du sommet de l'Union africaine, lors duquel a été élu le nouveau président de la commission de l'UA, le Djiboutien Mahamoud Ali Youssouf. Il l'a emporté sur le favori, le Kenyan Raila Odinga.
Le temps où l'Amérique soutenait l'Europe simplement parce qu'elle l'avait toujours fait et révolu.
Oui, la phrase est signée Volodymyr Zelensky, le président ukrainien qui a poussé hier les Européens à mettre sur pied une force armée. C'était à la tribune de la conférence sur la sécurité de Munich, alors que les Américains poursuivent leur discussion avec la Russie pour débuter des négociations de paix sur la guerre en Ukraine. Hier, Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, s'est entretenu par téléphone avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Emmanuel Macron aurait, lui, convié les dirigeants européens à une réunion demain à Paris, c'est ce qu'annonce Varsovie, mais aussi le chef de l'OTAN pour l'Elysée. Pour l'instant, l'Elysée n'évoque que des discussions toujours en cours. Dans le sud de l'Autriche, une attaque au couteau a fait un mort et 5 blessés. Ça s'est passé hier dans la commune de Villar. Un suspect a été arrêté par la police. Il s'agit d'un ressortissant syrien âgé de 23 ans. Le gouverneur de Carinthie parle d'une atrocité inconcevable. Correspondance en Autriche, Isorias.
C'est en plein après-midi, peu avant 16h, qu'un homme a attaqué ce samedi plusieurs passants au couteau dans le centre-ville de Villar, petite ville de Carinthie, au sud de l'Autriche. Un adolescent de 14 ans est décédé et 5 hommes ont été blessés, dont 2 grièvement. La police a arrêté le suspect peu de temps après les faits. Il s'agit d'un ressortissant syrien de 23 ans qui serait en situation régulière. Selon la police, un témoin de l'attaque sur place a permis d'éviter qu'il y ait davantage de victimes. Un livreur de repas, âgé de 42 ans, lui aussi originaire de Syrie, aurait en effet assisté à l'attaque puis heurté l'attaquant avec son véhicule, permettant ainsi d'éviter de probables autres actes. Le motif de cette attaque reste encore à éclaircir. Peter Kaiser, le gouverneur de Carinthie, s'est dit profondément choqué par cette atrocité inconcevable, ajoutant que quiconque vit en Autriche doit respecter le droit et la loi et s'adapter à nos règles et à nos valeurs. Isorias, Vienne, RFI.
En France, il l'a répété hier, il n'était pas au courant des violences sexuelle commise au collège-lycée Notre-Dame de Bétarame lorsqu'il était ministre de l'Éducation.
Et à l'issue de sa rencontre hier avec l'association des victimes de ces violences, François Bayrou a affirmé qu'il avait fait tout ce qu'il devait faire quand il était ministre de l'Éducation nationale dans les années 90. Il a notamment souligné avoir demandé une inspection générale de l'établissement dès qu'il avait appris en 96 le dépôt d'une première plainte d'un élève giflé violemment par le surveillant général du collège-lycée. La victime était scolarisée dans la même classe que l'un des fils de François Bayrou. Selon le Premier ministre, l'inspection avait donné lieu à un rapport rassurant. Il n'a pas connu pareille crise depuis plus de 30 ans. Les chiffres de la récolte 2024 du vin bordelais sont tombés, les pires depuis 1991. 95% des domaines sont en difficulté. Parmi les explications, l'arrachage subventionné des parcelles à un champignon parasite, mais aussi la concurrence internationale. Reportage dans le territoire de l'Entre-deux-Mers, au sud de Bordeaux, signé Noémie Lewiller.
En ce mois de février, la préparation de la récolte 2025 a déjà commencé.
On taille la vigne, on tombe les bois, c'est-à-dire on sort les sarments qui restent sur le palissage.
La zone de l'Entre-deux-Mers est réputée pour ses liquoreux en appellation Cadillac. Mais Olivier Metzinger produit aussi du vin blanc sec, du rosé et du vin rouge en côte de Bordeaux. Le vin rouge dont la consommation a baissé de 30% en 10 ans.
Aujourd'hui, il y a vraiment des moments où c'est complètement arrêté, vous ne trouvez plus rien à vendre. C'est très tendu, on gère le jour, hein. faut pas se leurrer. Nous, on a réorganisé nos emprunts, on a diminué nos surfaces, on a arraché une partie avec des aides d'arrachage.
Olivier cultive aussi désormais des céréales et propose des prestations de services agricoles. Mais tous les vignerons ne survivent pas à ce long passage à vide. Didier Cousinet, président du collectif Viti 33.
Ça fait 15-20 ans qu'on vend le vin en dessous de 1000 euros le tonneau, alors qu'il faudrait qu'aujourd'hui on le vende pour pouvoir vivre et survivre 1400 euros. D'ici les 12 à 24 mois, je ne vois pas de reprise fulgurante. Aujourd'hui, malheureusement, il va falloir qu'il y ait pas mal de viticulteurs qui disparaissent.
Ces prévisions pessimistes se vérifient déjà. La moitié des exploitations viticoles de l'Entre-deux-Mers seraient en vente. Noémie Leweller, Bordeaux, RFI.
Enfin, il y avait du football hier en Ligue 1 avant son barrage retour de Ligue des Champions face à Manchester City. Le Real Madrid a fait match nul un partout face à Osasuna, un Real qui ne gagne plus en championnat depuis le 25 janvier. Et hier, une polémique à la clé après l'expulsion du milieu de terrain Jude Bellingham. À Madrid, Pierre Chaperon.
Un carton rouge qui change tout. Selon les médias espagnols, Jude Bellingham aurait insulté l'arbitre. Résultat, une expulsion à la 40e minute. Après la rencontre, le milieu de terrain livrait sa version des faits.
C'est difficile quand l'arbitre explique que je l'ai insulté. Je suis heureux que la vidéo soit diffusée. C'est une preuve et ça va à l'encontre de ce qui est écrit dans le rapport.
Un conflit ouvert avec l'arbitrage en Espagne depuis plusieurs mois. Une fois de plus, les champions d'Europe pourront passer des heures à se plaindre. Leur entraîneur, Carlo Ancelotti, en tête.
Je crois que le carton rouge est sorti par manque de sang-froid. Il y a un problème de traduction, il y a un souci. Que pouvons-nous faire? Continuer à nous battre? Aujourd'hui, nous avons bien joué. Mercredi prochain, il y a la Ligue des Champions et peut-être que tout se passera bien.
Pourtant, tout avait bien commencé pour le Real Madrid avec un but de Mbappé dès la 15e minute, une reprise à bout portant sur un centre de Valverde. Mais un pénalty du Croate Budimir après une faute de Camavinga a remis les deux équipes à égalité à l'heure de jeu. De l'envie, le Real en a montré, n'économisant pas ses forces avant d'affronter Manchester City. Mais le club madrilène n'a plus gagné depuis 3 semaines en championnat. Pierre Chaperon, Madrid, RFI.
Madrid où il est 6h12, tout comme à Paris. Et tout de suite, c'est Julien Coquelroem.
Merci Jeanne Bartoli. Dimanche 16 février 2025, bienvenue à vous. RFI Matin, 3 heures d'information. Et à la une, ce nouvel échange d'otages et de prisonniers hier entre Israël et le Hamas. Cette image qui choque, côté palestinien comme israélien, celle de palestiniens avant leur libération, à genoux et vêtus d'un sweatshirt arborant l'étoile de David et une inscription en arabe, ni oubli, ni pardon. Le club des prisonniers palestiniens s'en émeut et dénonce plus largement les violences qu'ils subissent en détention.
Dès leur sortie de prison, certains ex-détenus ont directement été hospitalisés. Presque tous ceux qui ont été relâchés souffrent d'anémie et de maladies de peau. Certains ont même des fractures aux côtes, des dents cassées. Certains vont garder des séquelles à vie. Et je ne parle même pas des séquelles psychologiques causées par les souffrances qu'ils ont endurées.
La colère du club des prisonniers palestiniens dans le journal de 6 heures, temps universel. L'actualité ce matin, c'est aussi le Djiboutien Mahamoud Ali Youssouf, élu à la tête de la commission de l'Union africaine, le sommet de l'UA dominé par le conflit dans l'est de la RDC, et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui appelle à éviter une escalade régionale. Le point complet dans moins de 20 minutes. Mais pour commencer ce matin, une bataille cruciale pour l'environnement dans le sud de la Bolivie. Nous sommes en plein cœur de la réserve naturelle de Tariquia, sanctuaire de biodiversité. D'un côté, le gouvernement bolivien, en quête de ressources pour relancer l'économie, qui veut y exploiter des hydrocarbures. De l'autre, des communautés locales qui résistent depuis des années face à l'intrusion des compagnies pétrolières et la pression de l'État. Les tensions sont encore montées d'un cran il y a quelques mois. Camille Bouju.
Une grande tente bleue trône à l'intersection de deux chemins. C'est ici, dans la réserve de Tariquia, que les habitants de Chiquiaca ont installé leur point de vigilance pour empêcher l'entrée dans la réserve. Pour Andrés Miranda, défenseur de Tariquia, ce lieu est important.
Notre point de surveillance est resté comme un symbole, une bannière de notre lutte.
Depuis des années, les locaux y défendent la réserve contre les ambitions extractivistes de l'État bolivien en recherche d'énergie fossile. Celui-ci a modifié dès 2014 des lois pour réduire le niveau de protection de Tariquia et ainsi permettre aux compagnies pétrolières d'y entrer au mépris des droits des habitants.
Ils veulent forer dans une zone en hauteur qui est proche d'une source. Beaucoup d'eau descend jusqu'en bas, où se trouvent de nombreuses communautés qui seront affectées par l'eau contaminée.
En 2019, après un blocus de 6 mois, les habitants ont réussi à repousser les compagnies pétrolières. Mais avec l'actuelle crise économique en Bolivie, elles reviennent à la charge. Cette fois, elles tentent de convaincre de petits villages avec des promesses économiques, comme le raconte Mereville, une leaduse de la lutte.
Les entreprises sont venues et en ont convaincu certains en disant « Vous, vous soutenez que l'entreprise puisse entrer dans la réserve et moi, je vais vous donner des meubles ou autres. Je vais donner un emploi à votre mari. »
Mi-octobre, un référendum dans la communauté devait décider si le forage serait autorisé. Mais les compagnies pétrolières n'ont pas attendu. Elles sont entrées de force dans la réserve, brisant la chaîne humaine formée par les défenseurs. Silvana Maria était présente ce jour-là.
L'objectif était de les empêcher de passer, mais de façon non violente. Finalement, ils ont réussi, parce qu'ils sont venus avec une énorme force policière. C'était impossible, mais on voulait montrer qu'on était contre.
Ce matin-là, les militants du comité de défense de Tariquia empruntent le chemin utilisé par l'entreprise pétrolière pour comprendre ce qui s'y prépare. En route, ils découvrent des balises marquées de codes qui délimitent une zone. Selon eux, c'est ici que la compagnie construira une route menant au puits. Un tracé qui franchira plus de 6 rivières.
Tout ça, ils vont le détruire parce que la compagnie a besoin de plus de 10 mètres de large.
En début de soirée, ils se réunissent pour organiser la suite de la lutte.
Tout ce qu'ils sont en train de faire est illégal.
Depuis mi-octobre, 31 membres du comité de défense de Tariquia sont poursuivis en justice pour avoir tenté de bloquer les compagnies. C'est le cas de Juana Mercado.
En réalité, nous sommes poursuivis pour avoir défendu l'eau, la vie. Malheureusement, le gouvernement et les entreprises veulent nous humilier, ils veulent nous faire taire, mais nous allons continuer.
Les communautés espèrent que les autorités se mobiliseront à temps pour éviter la catastrophe écologique que cette exploitation pourrait engendrer. Camille Bouju, Chiquiaca Norte, RFI.
Notre reportage international en Bolivie à retrouver sur RFI.fr.
RFI à Paris, 89 FM.
L'actualité politique en France, comme chaque dimanche, et le parti Les Républicains va-t-il renouer avec ses vieux démons? Une intense bataille pour la présidence du parti se décide entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau, qui se sont déclarés candidats cette semaine. L'enjeu est important car le vainqueur sera bien placé pour se présenter en 2027. Bonjour Raphaël Delvolvé.
Bonjour.
Ce duel annoncé devrait être rude.
Oui, dès mercredi, Bruno Retailleau a pris les devants en déclarant sa candidature 24 heures avant son rival dans la foulée. L'entourage de Laurent Wauquiez a fait savoir que le ministre de l'Intérieur prenait, je cite, « la lourde responsabilité d'ouvrir une guerre des chefs ». Les relations entre les deux hommes ont atteint une rupture. Elle est apparue au grand jour la semaine dernière après un dîner au cours duquel Laurent Wauquiez a tenté de dissuader Bruno Retailleau de partir dans la course, lui rappelant qu'un pacte existait entre eux. La droite au gouvernement devait être incarnée par le Vendéen, la future droite à l'Élysée par Laurent Wauquiez. Si l'entourage de Bruno Retailleau dément l'existence d'un tel accord, on comprend que Laurent Wauquiez pensait avoir une route dégagée et que son concurrent lui a coupé l'herbe sous le pied.
Face à la situation politique particulièrement mouvante, Laurent Wauquiez s'était montré particulièrement prudent jusqu'ici.
Oui, rappelons-le, LR n'a toujours pas de chef depuis le départ fracassant d'Éric Ciotti, parti nouer une alliance avec le RN. Depuis, Laurent Wauquiez semble tergiverser cet été au Montmézin. Il annonce, aux côtés de Bruno Retailleau, une opération refondation de la droite, mais rien ou presque ne s'est passé depuis. Pas de date de congrès, pas de ligne politique clairement définie, des refus répétés également d'entrer au gouvernement, comme s'il attendait le bon moment pour sortir du bois. C'est un cérébral, il réfléchit beaucoup, parfois trop, résume un ancien cadre du parti. Car pendant ce temps, même sans direction claire, la marque LR reprend des couleurs, notamment à travers Bruno Retailleau, ministre le plus populaire du gouvernement. Il laisse une empreinte très forte auprès de la France de droite, se convainc un ministre. Outre les sondages, LR enregistre également de bons résultats dans des élections partielles. Bref, un alignement des planètes pour Bruno Retailleau, qui, voyant Laurent Wauquiez tarder, tente de faire quelque chose de cette popularité. À court terme donc, prendre le parti, et à long terme, incarner LR pour la prochaine présidentielle.
Et alors, qui est le favori ?
Pour l'instant, Bruno Retailleau est devant Laurent Wauquiez dans les enquêtes. Il a également le soutien de poids lourds comme Xavier Bertrand ou Gérard Larcher. Chez Wauquiez, ça se compte sur les doigts d'une main, estime un soutien du Vendéen. Mais l'ancien président de région est aussi réputé combatif, voire teigneux. Dans une interview au Figaro cette semaine, il lance de premières flèches. Il voit par exemple, dans son absence au gouvernement, un atout. Il ne s'estime notamment pas lié à François Bayrou. Il peut de surcroît entraver l'action gouvernementale puisque, rappelons-le, il préside le groupe des députés LR à l'Assemblée nationale. Laurent Wauquiez tente aussi de jouer la montre. Ses proches, à grand renfort de juristes, ont imposé au parti 3 mois de campagne. Les scrutins internes apportent toujours leur lot de surprises, surtout à droite, où les guerres fratricides laissent souvent du sang sur les murs.
Raphaël Delvolvé, merci beaucoup. Et dans notre livre international, cette semaine, un portrait de l'un des dirigeants les plus jeunes et les plus mystérieux au monde, le dictateur nord-coréen Kim Jong-un, raconté dans une bande dessinée signée par une sud-coréenne. Mon ami Kim Jong-un, c'est le titre de cet ouvrage, où Kum Suk Jendri Kim livre un récit contrasté de cette figure incontournable au cœur du conflit qui divise la péninsule coréenne depuis plus de 70 ans. Despote sanguinaire ou simple héritier d'une lourde dynastie, la BD est parue en France aux éditions Futuropolis. Entretien signé Nicolas Roca.
Bonjour, Kum Suk Jendri Kim.
Bonjour.
Alors pourquoi ce titre qui est une forme de provocation avec une sorte de parallèle entre votre vie et celle du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un ?
Oui, en fait, je n'ai pas choisi ce titre pour provoquer. Mon ami, ça veut dire que c'est loin ? En même temps proche, comme la Corée du Nord, on est très proche, mais on est aussi loin, comme une un peu famille, mais comme des amis, mais pas l'ennemi en même temps ami. Voilà.
Vous essayez de comprendre Kim Jong-un, de comprendre sa famille. Vous avez parlé à énormément de personnes, des spécialistes. Vous êtes penché sur les archives du gouvernement sud-coréen. Et on a l'impression que vous avez ramassé toutes les informations qu'on peut ramasser sur Kim Jong-un et sa famille. Et en même temps, on a l'impression que malgré tout, on n'arrive pas à tout comprendre au final et que ça reste un peu insaisissable.
Oui. Quand il a succédé son père, Kim Jong-il, en 2011, il y a pas mal de livres, pas mal d'informations qui est sorties. Mais je voulais pas faire la biographie de Kim Jong-un. D'ailleurs, est-ce qu'on a vraiment des sources exactes sur tout ce qu'il a fait ou sur les dates, etc. On est sûr de rien, finalement. Je voulais surtout faire la recherche un peu autour de lui aussi, parler de Corée du Nord et tout ça.
À travers votre ouvrage, on voit différentes facettes de Kim Jong-un, l'enfant qu'il a été avant de devenir dirigeant, l'homme qui tente de réformer son pays, ou bien celui qui fait assassiner son demi-frère et son oncle. Est-ce que vous avez essayé de montrer la complexité de Kim Jong-un ?
J'ai essayé de comprendre sa vie. C'est le seul dirigeant de Corée du Nord qui est parti en Europe, en Suisse, pour faire des études. Et puis, il y a sa mère aussi qui a été hospitalisée, soignée en France. Donc, il a une certaine complexité. Il a eu l'accès à la culture occidentale et tout ça. Donc, j'avais envie de comprendre. Et en même temps, à l'époque où il était en Europe, moi aussi, j'étais en Europe. Peut-être on s'est croisés. Je trouve ça assez marrant de creuser aussi ce domaine-là.
Au fil de vos recherches, vous faites des rencontres assez exceptionnelles, notamment celle de Moon Jae-in, l'ancien président sud-coréen, grand artisan du rapprochement avec le Nord. Il s'est entretenu à 3 reprises avec Kim Jong-un lors de sommets inter-coréens. Quel effet est-ce que cela vous a fait de rencontrer un tel personnage?
Je savais qu'il refusait toutes les interviews des journalistes depuis qu'il est parti de sa position en tant que président. Même s'il refusait, moi je voulais quand même le contacter, il fallait absolument le contacter. S'il accepte de me recevoir, ce serait vraiment génial parce qu'il a fait presque des miracles. Lorsque j'ai pu le voir, j'étais vraiment très très ravie, même s'il parle pas de cette rencontre. Le fait qu'il m'ait reçu dans son résidence, pour moi, c'était vraiment génial. Et puis finalement, il a parlé de cette rencontre.
Et qu'est-ce qu'il vous a dit de Kim Jong-un sans révéler trop ce qu'il y a dans le livre?
Dans le livre, il a respecté son langage, des mots qu'il a choisis, son expression et tout ça. Donc, je n'ai pas à dire plus de choses.
Il faut lire la BD. Alors, vous mettez beaucoup, vous avez dit, de votre vie personnellement avec des parallèles, mais vous racontez aussi votre enfance en Corée du Sud, une Corée du Sud qui est très anticommuniste. C'est un discours qui est beaucoup revenu en Corée du Sud récemment. Quel effet est-ce que ça vous fait, vous, de revoir un petit peu ces thèses très anticommunistes et qui opposent les deux Corées, être encore présente et de plus en plus dans le débat public en Corée du Sud?
C'est tout ça que c'est très triste et dommage que ça continue encore, parce que depuis le premier gouvernement en Corée du Sud, on a toujours utilisé cet esprit contre communisme, contre la Corée du Nord. C'est aujourd'hui également politiquement à chaque fois les extrémistes qui servent cette idée contre la Corée du Nord pour servir et pour garder le pouvoir. Je trouve ça très dommage et triste. Oui.
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre aux questions de RFI.
Merci beaucoup de m'avoir invité.
Kamsuk Jendri Kim au micro de Nicolas Roca avec sa bande dessinée Mon ami Kim Jong-un, paru chez Futuropolis.
RFI Matin.
Et comme chaque dimanche, Steven Jambot m'a rejoint dans RFI Matin pour présenter l'atelier des médias d'aujourd'hui. Bonjour Steven.
Bonjour Julien Coquel-Rohem.
Vos invités sont deux journalistes du quotidien français Libération. Ils ont publié un livre intitulé « Pape fascisme, comment l'extrême droite a gagné la bataille culturelle sur Internet ».
Maxime Massé et Pierre Plotu travaillent depuis plusieurs années sur la mouvance d'extrême droite, des groupuscules les plus radicaux au Rassemblement National. Ce titre, « Pop fascisme », c'est un clin d'œil au post-fascisme, l'étiquette utilisé en Italie pour définir le positionnement de Giorgia Meloni, écartelé entre ses origines radicales et son approche conservatrice. Ces deux auteurs racontent dans leur livre comment, en France, les idées d'extrême droite se sont emparées d'Internet et des réseaux sociaux pour diffuser leurs idées à des communautés de plus en plus importantes.
Maxime Massé et Pierre Plotu expliquent aussi comment cette fachosphère trouve des débouchés dans les médias traditionnels.
Ils citent évidemment l'empire médiatique du milliardaire breton Vincent Bolloré. De la presse écrite, le JDD, Paris Match, des radios comme Europe 1, des télévisions, Canal+, C8 et évidemment CNews. Pierre Plotu et Maxime Massé expliquent que ces médias contribuent en France à rendre mainstream des idées d'extrême droite et constituent un véritable écosystème. Je vous propose d'écouter Maxime Massé.
En fait, ce qu'on remarque assez facilement, c'est que à la fois les médias de Bolloré et les influenceurs dont nous parlons dans ce livre font des échanges de communautés. C'est-à-dire qu'à la manière de youtubeurs célèbres qui vont faire du jeu vidéo s'invitent entre eux pour en fait bénéficier chacun de la communauté de l'autre, on va inviter sur les médias de Vincent Bolloré des influenceurs qui ont plusieurs centaines de milliers d'abonnés sur d'autres plateformes de réseaux sociaux. Tout simplement parce que généralement c'est des gens qui ne regardent pas la télé. L'auditeur moyen de CNews, il passe quand même moins de temps sur YouTube que sur CNews. Puis c'est des gens un peu plus âgés généralement. Et en fait, ils vont ramener sur les médias de Vincent Bolloré un public qui n'a pas l'habitude de consommer de la télévision, mais par contre qui est déjà nourri d'un discours extrêmement radical sur les réseaux sociaux et qui va arriver dans des espaces pseudo-journalistiques dans lesquels, en fait, on va leur servir exactement le même discours, plus ou moins policé, hein, parce qu'on arrive à des degrés de radicalité dans les médias de Vincent Bolloré qui n'ont plus grand-chose à envier avec ce qui peut se passer sur YouTube, par exemple. Et tout simplement, en fait, on va créer des cohortes de gens qui seront de plus en plus convaincus des idées qui sont professées par les gens qui suivent.
Maxime Massé, que l'on retrouve avec son collègue Pierre Plotu. Ils sont tous deux journalistes au quotidien français Libération et dans l'atelier des médias à 11h10, temps universel sur RFI, pour discuter donc de la place de l'extrême droite française sur Internet et dans les médias.
L'émission est déjà disponible à l'écoute en podcast, par exemple sur notre application RFI Pure Radio. Elle dure 20 minutes à la radio et 1 heure en podcast.
Merci Steven Jambeau.
Bonne journée Julien.
Et sur RFI, l'info continue, le journal dans moins d'une minute. A tout de suite.
RFI à Libreville, 104 FM. Freetown, 89.9 FM.
Mondial Sport, Hugo Moissonnier.
Après Radio Foot International toute la semaine, Mondial Sport le week-end. 50 minutes ensemble pour partir à la découverte de nombreuses disciplines aux quatre coins du globe. Invités, reportages, débats, discussions, découvertes. Rendez-vous tous les samedis et tous les dimanches sur la radio du monde à 16h10, temps universel.
C'est sur RFI, mais aussi en podcast sur RFI Pure Radio.